VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Gaby Dorsil et Anastasie Tudiech. Bienvenue dans cette édition du vendredi 2 décembre 2016.
Au sommaire, élections en Gambie, fin de règne pour Yahya Jammeh. Le président gambien a reconnu sa défaite face au principal candidat de l'opposition, Adama Barrow.
Portrait du vainqueur et du président sortant.
Réactions et analyses.
Un segment spécial dans notre journal.
Également dans l'actualité, nouvel ajournement du procès d'Amadou Ahia Sanogo, c'est au Mali.
Le président élu américain Donald Trump a choisi un général pour diriger le Pentagone.
Les sports, bien sûr, l'économie, bien sûr, mais c'est juste après le journal. Victoire surprise de l'opposition en Gambie, le président de la commission électorale indépendante a déclaré élu Adama Barrow et met fin à 22 ans de règne de Yahya Jammeh, qui a reconnu sa défaite. Eric Manirakiza.
Nous avons une petite difficulté technique et nous nous en excusons auprès de nos auditeurs. Alors, il faut dire que le candidat de cette coalition d'opposition, Adama Barrow, a remporté la présidentielle en Gambie. Ce n'est pas vraiment une surprise. Les sondages le donnaient gagnant. Ce qui surprend peut-être, c'est la déclaration attribuée au président Yahya Jammeh, disant qu'il a reconnu sa défaite, donc qu'il va laisser le pouvoir après 22 ans. On reviendra sur ce sujet.
Alors, place tout de suite à l'enregistrement aux explications d'Éric Manirakiza.
Le candidat d'une coalition d'opposition a réuni 45,5% des suffrages contre 36,6% pour Yahya Jammeh, selon Aliou Muammar Ngiaye, président de la commission électorale indépendante. Une double surprise, la victoire inattendue d'Adama Barrow et Yahya Jammeh qui a reconnu son camouflet électoral. La commission électorale a même jugé exceptionnelle cette concession. Des manifestations de joie ont éclaté dans les rues de Banjul et dans plusieurs autres villes gambiennes en avril dernier. Des manifs qui réclamaient des réformes politiques ont été réprimées dans le sang. Un opposant est mort en détention et une trentaine ont été condamnés à 3 ans de prison, dont le chef de l'opposition, Ousseynou Darbo. La présidentielle de ce jeudi marque une ère nouvelle et met fin à 22 ans de dictature. Une première pour un régime qui a survécu à de nombreuses tentatives de coup d'État, mais que personne ne pensait être sérieusement menacé par un scrutin.
Le candidat de la coalition d'opposition, nouveau président de la Gambie, s'appelle donc Adama Barrow. Mais qui est-il? Les détails tout de suite de Salwa Jafari.
Le soutien est là, le pouvoir appartient au peuple, vous ne pouvez pas le réprimer. C'est le peuple et le peuple est avec vous.
Adama Barrow a eu raison, il est pourtant l'homme qu'on n'attendait pas. Né en 1965, originaire de Bassantou, il a d'abord fréquenté l'école primaire locale de Kaobakunda, puis l'école secondaire Crab Island à Banjul, avant de recevoir une bourse pour l'école secondaire musulmane. Un diplôme en poche, il a travaillé pour Argy Moussa & Sons en tant que directeur des ventes. Barrow a ensuite déménagé à Londres au début des années 2000, où il a étudié pour un diplôme en immobilier, tout en travaillant comme gardien de sécurité pour financer ses études. Il s'est par la suite lancé dans les affaires avec son agence immobilière, la Majoun Real Estate, pour faire fortune, militant de l'UDP, le principal parti d'opposition depuis 1996. Il a servi comme trésorier avant de démissionner pour annoncer sa candidature. La désignation de l'homme d'affaires comme candidat à la présidentielle relève d'un concours de circonstances. Ousseynou Darbo, le leader de l'UDP, purge une peine de 3 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Barrow aura ainsi réussi l'exploit de faire tomber l'homme fort de Banjul, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans.
Yahya Jammeh qui donc quitte le pouvoir et c'est un portrait signé Nanit Talani que nous découvrons maintenant.
Yahya Jammeh, 51 ans, est issu d'une famille paysanne de l'ethnie Djola. Ce capitaine de l'armée est arrivé au pouvoir en 1994 après un coup d'État contre le président Daouda Diawara. 2 ans après, il prend sa retraite de l'armée avec le grade de colonel pour créer son parti. Il remporte à 31 ans la présidentielle et sera réélu en 2001 puis en 2006, avant qu'un amendement constitutionnel supprime toute limite au mandat présidentiel en 2002. Il a un physique de lutteur, arbore toujours son boubou blanc avec chécha, écharpe, des tonnes de colliers et médailles autour du cou, une canne taillée sur mesure et apparaît souvent avec plusieurs chapelets à la main. Yahya Diame s'est aussi illustré par ses déclarations contre l'Occident, l'homosexualité et a retiré son pays de la CPI, même si la procureure Fatou Bensouda, gambienne, est son ancienne ministre de la Justice. Aimant à se faire appeler son excellence tchèque professeur et là du docteur Yahya Adi Diame, il affirme guérir plusieurs maladies, dont l'asthme, l'épilepsie, la stérilité et le sida. Marié, il est père de deux enfants. Ses partisans le créditent de plusieurs projets et de la relative stabilité dont jouit le pays. Les ONG l'accusent de violation des droits de l'homme, des assassinats, disparitions forcées et tortures contre des défenseurs des droits de l'homme, journalistes et opposants. Certains de remporter un cinquième mandat, il avait déclaré pendant sa campagne, « Ils ne gagneront pas. Peu importe ce que les gens disent de moi, c'est entre moi et Dieu. » Alors, Dieu l'aurait-il subitement lâché puisque Yahya Diame a perdu par les urnes?
On peut l'imaginer, cette victoire inattendue du candidat de l'opposition a donné lieu à une manifestation de joie dans les rues. Écoutez ce témoignage d'Alpha Diallo, journaliste VOA, joint par Idriss Fall.
Les gens sont en train de célébrer depuis, même pendant la nuit, quand les résultats provisoires indiquaient qu'Adama Barrow avait une avance confortable. Ils ont commencé à fêter, à crier dans les rues en grand nombre. Je viens juste de parler à un reporter local et il a dit qu'aujourd'hui à Banjul, la capitale, à Serekunda, qui est une grande ville, Birkama et Pakao, c'est très explosif. L'atmosphère est très électrique. Les gens dansent et chantent partout parce qu'ils se sentent libérés du joug de M. Diame qui a dirigé le pays d'une main de fer.
La victoire de l'opposition et l'acceptation des résultats de l'élection par le président sortant Yahya Diame est une surprise pour beaucoup d'observateurs de la scène politique gambienne et au-delà. Pour une analyse, Fatou Diagne Senghor de l'association Article 19 a été interrogé par Abdourahmane Dia.
Bon, je pense que c'est déjà d'être dans une coalition que beaucoup de population attendait. Je pense que voulait le changement, mais savait que le changement ne pouvait pas se faire avec les petits partis. Donc, c'était important d'être en coalition de ces partis. Mais aussi, je pense que 22 ans quand même de pouvoir autour du président Diame, 22 ans quand même qui ont été marqués par une répression très forte. Je pense que les populations ont beaucoup souffert. Et cette fois-ci, c'était leur dernière chance. Et je pense que les uns et les autres avaient compris. Il fallait faire le bon choix électoral l'année dernière, qui ne prévoyait pas de deuxième tour. Au début, était vu comme un aspect négatif pour l'opposition, mais finalement, ça a marché. S'il y avait deuxième tour, ça allait encore prolonger la tension.
Beaucoup avaient quand même exprimé des doutes sur la transparence du processus électoral.
Bien sûr, ça c'est vrai. Moi, je pense qu'il y avait, un certain nombre de défis quand même. Le fichier n'était pas audité. L'encre aussi, il n'y avait pas de consensus sur l'encre, l'IDB et autres. Mais ce qui a beaucoup joué, je pense, c'est la volonté des populations de sortir et d'aller voter massivement. En fait, mais le préalable quand même n'était pas là.
Et quels vont être les défis du président élu Adama Barrow maintenant?
Les défis sont énormes. C'est déjà la sécurité du pays, c'est important. Comment cette transition va être négociée avec le président sortant et son équipe pour éviter qu'il y ait en fait des problèmes de sécurité, sachant que l'armée quand même n'est pas très professionnelle. Il y a eu beaucoup de problèmes avec cette armée partisane. L'autre chose, c'est les défis économiques. La Gambie est presque à terre des défis économiques et aussi renouer avec ses partenaires, ses relations internationales, notamment avec ses voisins, renforcer les liens et rétablir en fait l'axe Dakar-Banjul, c'est très important et c'est urgent. Mais l'autre chose, c'est aussi en fait la réconciliation du peuple. Le peuple a beaucoup souffert et les gens doivent finir, revenir ensemble. Et la toute diaspora est partie et toute l'élite est partie du fait de la répression. C'est quand même des enjeux importants. Pour un régime qui va faire la transition.
Fatou Diagne Senghor de l'association Article 19.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 14 personnes, dont un bébé de 6 mois, ont été tuées aujourd'hui dans l'explosion d'un camion-citerne dans la ville de Tejina, au centre du Nigeria. C'est ce qu'ont affirmé des témoins à l'AFP. Les accidents impliquant des camions-citernes sont fréquents sur les routes du Nigeria. En cause, la vétusté des routes, le piètre état des camions et la conduite dangereuse des chauffeurs. Ibrahim Zakzaki, le chef du groupe chiite Mouvement islamique du Nigeria, ainsi que son épouse, ont été libérés aujourd'hui. Le couple s'est également vu accorder 25 millions de naira, soit près de 50 millions de francs CFA. Un tribunal nigérian a ordonné aujourd'hui leur libération sans condition, jugeant illégale leur détention depuis un an par le département des services d'État. En Angola, les 37 personnes poursuivies pour tentative de coup d'État en janvier ont été interpellées en possession d'armes à feu à proximité du palais présidentiel, selon l'acte d'accusation lu aujourd'hui par le juge. Et ailleurs dans le monde, en Syrie. Les rebelles et leaders politiques de l'opposition insistent sur le fait que l'insurrection contre le président Bachar al-Assad continuera, même s'ils perdent le contrôle sur certaines parties d'Alep.
La Minute Écho, c'est avec Morgane Guiriac.
En Tunisie, le yuan, la devise chinoise, fait son entrée parmi les réserves de change de la Banque centrale. Dorénavant, les entreprises chinoises pourront payer directement en yuan, ce qui devrait baisser le prix des produits tunisiens. Auparavant, les partenaires asiatiques devaient s'acquitter de leurs factures en dollars majorées d'une prime de risque due à la forte volatilité des taux de change. Cette nouvelle devrait booster les exportations tunisiennes et l'arrivée des touristes chinois qui pourront utiliser leur propre monnaie. Selon les données rendues publiques par la Banque centrale d'Égypte, les échanges commerciaux entre l'Égypte et le reste du monde ont enregistré une baisse de 8,54 milliards de dollars au cours de l'exercice 2015-2016. Les échanges commerciaux s'étant élevés à 75,2 milliards de dollars contre 83,55 milliards de dollars pour l'exercice 2014-2015. Cette situation est due à un recul des importations et des exportations. Enfin, la Banque africaine de développement annonce avoir accordé au groupe bancaire nigérian United Bank for Africa une ligne de crédit de 150 millions de dollars destinée à financer des projets d'infrastructure et de petites et moyennes entreprises au Nigeria.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
Alors on connaît les trois finalistes pour le trophée du meilleur joueur FIFA de l'année.
Le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi ainsi que le Français Antoine Griezmann. Ronaldo fait figure de favori avec un titre de champion d'Europe avec le Portugal malgré une blessure en finale et surtout une victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid. L'Argentin Lionel Messi, lui, est le ballon d'or en titre. Et puis le petit nouveau Griezmann, à 25 ans, il est devenu l'un des piliers de l'équipe de France. Il a été finaliste de la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, finaliste également de l'Euro remporté par le Portugal. Pour le titre du meilleur entraîneur, le coach français du Real Madrid, Zinedine Zidane, aux côtés du technicien de Leicester, l'italien Claudio Ranieri, et du sélectionneur portugais Fernando Santos.
Tournoi de l'UMOA, la grande finale, c'est demain.
Où elle opposera samedi le Sénégal au Mali au stade Kégué de Lomé, comme nous l'explique Élisée Ungpatine.
Ces deux sélections ont terminé respectivement en tête de leur groupe dans la poule A. Les Aigles ont fini avec 7 points, 2 victoires et 1 nul, surtout la victoire de la dernière journée qu'ils ont obtenue face à la Côte d'Ivoire 1-0. Même cas de figure pour les Lions de la Teranga qui sont eux aussi sortis avec 7 points et cette belle victoire pour finir 1-7-0 devant la Guinée-Bissau. En se retrouvant une fois encore en finale, cette fois à Lomé, Maliens et Sénégalais seront dans un face-à-face qui s'annonce épique. Le Mali aura l'occasion de prendre sa revanche puisque le Sénégal était sorti vainqueur il y a 6 ans à domicile sur la marque de 1-0. Une réalisation de Stéphane Badji Boycon. Élisée Rumpati, VOA Afrique.
Allez, on finit avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Pour la première fois de la saison, le champion NBA en titre Cleveland a concédé une deuxième défaite consécutive. Les Cavaliers de LeBron James ont perdu pied dans leur salle. Défaite 94-113 face aux Clippers de Los Angeles qui restaient pourtant sur 3 défaites d'affilée. Quant au grand rival Golden State, il a vu sa série de 11 victoires de suite prendre fin à Oakland. Le choc entre les deux équipes les plus spectaculaires de la NBA a tourné à l'avantage de Houston, qui a battu Golden State 132-127 après 2 prolongations.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Anastasie Tudiech et chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour.
Le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila est de passage à Washington pour tenter de rassurer les Américains sur les intentions du chef de l'État congolais, alors que l'horizon semble toujours bien sombre dans le ciel politique à Kinshasa. Barnabé Kikaya Binkarubi affirme que Kabila sera toujours à la présidence après le 19 décembre, mais qu'il quittera bien le pouvoir quand son successeur sera élu. Une déclaration que ne vont pas forcément aimer les opposants congolais. Nicolas Pineau a rencontré Barnabé Kikaya Binkarubi. On l'écoute.
Informés, les Congolais ont trouvé une solution pour l'après 19 décembre. Le président de la République, qui a déjà accompli ses deux mandats électifs, peut rester en fonction. Donc la fonction de président continue. Bien que la légitimité électorale se termine, mais la fonction de président se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président élu à qui le président Kabila va transférer le pouvoir. Voilà la situation. Nous avons convenu ensemble que le poste de Premier ministre, par exemple, irait à l'opposition alors qu'il devait revenir à la majorité présidentielle. Et lorsque le Premier ministre Sami Badibanga a été nommé, moi je crois savoir que la population congolaise, unanimement, a salué comme un geste finalement qui vient adoucir les tensions, baisser les tensions dans les rues de Kinshasa.
Certains vous accusent déjà de violer la feuille de route puisqu'il n'y a pas de gouvernement.
Ça ne saurait tarder. Il est vrai que c'est un exercice compliqué, c'est un gouvernement d'union nationale, ne l'oubliez pas. Maintenant, il faut à tout prix que ce gouvernement d'union nationale soit mis en place. Le Premier ministre poursuit ses consultations et je crois que d'ici le début de la semaine, nous aurons un nouveau gouvernement.
Joseph Kabila n'a pas dit clairement qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat.
Si vous avez écouté sa dernière adresse à la nation, il a dit clairement que la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions. Et une de ces dispositions, puis-je vous le répéter, est que le président actuel ne peut pas briguer un troisième mandat.
Aujourd'hui, vous dites clairement que le président Kabila n'a pas volonté de modifier la Constitution pour rester au pouvoir.
Ah non, modifier la Constitution, il l'a dit. Mais je vous fais remarquer que dans la région, dans notre région d'Afrique centrale, plusieurs pays ont modifié leur constitution et que nous pouvions le faire en même temps qu'eux. Comme ça, on n'allait pas nous pointer du doigt. Mais nous ne l'avons pas fait.
Les membres du rassemblement, notamment l'UDPS, par la voix de Jean-Marc Kaboun, a appelé à une rencontre pour régler ces tensions, évidemment post-19 décembre, entre le président Kabila et Étienne Tshisekedi. Quelle est la réponse?
Il ne fait que nous rejoindre. Le président Kabila, lorsqu'il a reçu les membres du Conseil de sécurité, j'étais dans la salle. Laissez-moi vous dire que le président a lancé un appel pathétique à M. Étienne Tshisekedi de venir le rencontrer. Il a même dit aux membres du Conseil de sécurité, je vous remets mon numéro de téléphone privé. Allez le donner à M. Tshisekedi. Alors moi, je suis surpris que quelqu'un fasse une conférence de presse dans laquelle il répète la même chose. Le président Kabila n'a jamais fermé sa porte. Il est prêt à recevoir tous les Congolais. Il est là, il est président de tout le monde.
Voilà, c'était Barnabé Kikaya Binkarubi, conseiller du président Joseph Kabila.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La Centrafrique a été suspendue du processus de Kimberley le 23 mai 2013 suite à la prise de pouvoir par les rebelles de l'ex-Séléka. Deux ans après, le diamant centrafricain a pu regagner de manière partielle le marché international. Un rapport de l'ONG canadienne Partnership Africa-Canada révèle l'existence d'une importante fuite de diamants centrafricains via le Cameroun. Firmin Koyaweda a joint François Alain Bokoto, secrétaire permanent du processus de Kimberley en RCA.
Le rapport de l'ONG sur le point de l'existence de ces trafics entre le Centrafricain et le Cameroun a dit la vérité. Pourtant, il faut bien comprendre que ce n'est pas un phénomène que nous dirons nouveau. La contrebande a toujours existé entre ces deux pays, mais elle a pris beaucoup d'ampleur avec la suspension de la route centrafricaine et l'arrêt des exportations officielles.
À l'heure actuelle, quelles sont les stratégies mises en place pouvant permettre de lutter efficacement contre ces fuites?
Là, nous sommes en train de Depuis deux ans, depuis la levée de la suspension, nous travaillons avec les collègues du processus de Kimberley-Cameroun. Nous travaillons là-dessus. C'est dans ce sens-là aussi qu'il y avait eu au mois d'août dernier une conférence sous-régionale à Bangui avec tous les ministres des mines de la sous-région. Le ministre camerounais était là pour trouver les voies et moyens afin de réduire à zéro ces trafics et contrebandes. Donc nous sommes informés de l'existence de cette pratique et les deux pays travaillent ensemble avec les pays de la sous-région, le Congo, l'Angola. Nous travaillons ensemble pour réduire la contrebande des deux frontières.
Pensez-vous qu'une levée complète de cet embargo pourrait aider à circoncire ces sorties illicites du diamant centrafricain vers le Cameroun?
Certainement. Nous travaillons effectivement pour qu'il y ait une levée entière sur la zone ouest, parce que nous savons que la zone est encore dans des difficultés relatives au conflit, relatives à la présence d'hommes en armes, et ce sera très difficile peut-être d'obtenir des levées de ce côté. Mais du côté de l'ouest, les conditions sont déjà réunies, et si le processus de Kimberley peut aider à déclarer entièrement la zone ouest conforme pour faciliter la reprise des exportations dans ces zones-là, ça va favoriser donc le combat, ça va permettre de réduire rapidement la fraude et la contrebande qui s'est installée à l'absence de l'exportation officielle.
C'était Firmin Koyaweda qui a joint François-Alain Mbokoto. Donc on écoutait M. Mbokoto, il est secrétaire permanent du processus de Kimberley en RCA.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Les maires de 90 grandes villes sont réunis à Mexico jeudi pour discuter du réchauffement climatique. Les maires de Paris, Mexico et Madrid ont annoncé leur intention de se débarrasser totalement des véhicules diesel d'ici 2025. Pour comprendre les implications d'un tel engagement, Dili Diko a joint à Dakar Ali Haïdar, célèbre défenseur de l'environnement.
Le premier constat, c'est que les collectivités locales aujourd'hui se saisissent de la préoccupation environnementale. Si je prends comme exemple une ville comme Dakar, 4 millions d'habitants, 140 microgrammes de particules de CO2 au mètre cube, alors qu'une ville comme Paris est à 28. L'OMC recommande 20. Donc vous voyez bien qu'on est une ville très polluée, malgré le fait qu'on n'est pas une ville industrielle, mais simplement parce que des multinationales, du fait que la loi le permet, achètent un gasoil rempli de polluants et font respirer ça aux populations. C'est formidable que les collectivités locales prennent cette préoccupation en charge. Maintenant, bien sûr, tout le monde parle de l'environnement, COP21, COP22, le Mexique. Donc, mon constat est que surtout, on continue à faire des sommets, des séminaires, des réflexions. Mais sur le terrain, je vous assure, la forêt continue à brûler. Les multinationales continuent à piller les ressources au détriment de l'intérêt général, au détriment de la planète et au détriment de la sécurité alimentaire et de la sécurité de santé. C'est ça qui est sur le terrain, c'est ça qui est visible. Et ça, malheureusement, tant que le modèle mis en place dans la planète sera une course vers la croissance, non une course vers la répartition des biens qui prennent en charge l'humanité et les populations, tant que ce sera comme ça, les multinationales continueront de diriger ce monde.
Alors justement, est-ce que vous pensez que cet engagement aura un impact significatif sur l'environnement pour lutter contre le réchauffement climatique?
Oui, forcément, ça aura un impact. Et j'espère que toutes les villes du monde iront dans ce sens. Mais bon, les avions continueront à décoller, les aéroports à être construits, les centrales au charbon, pareil, les centrales nucléaires, pareil. Je crois à une société qui se prend en charge et qui prend en charge les préoccupations de son environnement. Qu'est-ce que je consomme? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi je le consomme? À partir de là, nous aurons la chance d'avoir des solutions durables.
Est-ce que vous pensez que les villes africaines prendront des initiatives similaires?
Je pense qu'elles suivront forcément. Bien sûr, toujours avec un peu de retard, c'est normal parce que les villes africaines ont d'autres préoccupations de sécurité alimentaire, d'éducation. Il y a des urgences ailleurs pour le moment. Mais j'espère que très rapidement, les villes africaines suivront. Malheureusement, nos priorités, hélas, ne sont pas dans l'environnement aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'autres urgences criantes sur la sécurité alimentaire, la sécurité même et la santé, l'éducation. Mais ça viendra, forcément ça viendra.
Ali Haïdar, défenseur de l'environnement à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En France, le président François Hollande a annoncé qu'il ne briguera pas un autre mandat. Alors, qu'en est-il de cette annonce ? Nicolas Pinault a posé la question à Achille Mbembe, professeur d'histoire et de philosophie à l'Université Wits de Johannesburg.
C'est une grande décision, quelles que soient les raisons qui l'y ont poussé. Qu'il y ait été poussé par le fait de la probable impossibilité de sa réélection ou qu'il y ait été poussé par son adhésion propre à un certain nombre de principes. Je crois que c'est un geste courageux et digne qu'on aimerait, on souhaiterait voir se reproduire chez nous, en particulier en Afrique.
Ça interroge justement notamment les débats en cours en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs sur le continent. Ça participe à cette réflexion ?
Je suis sûr que ça sera un élément de poids dans les réflexions qui ont cours justement au sujet de la perpétuation au pouvoir, en particulier dans la région de l'Afrique centrale, de gens qui n'ont plus du tout rien à donner à leur peuple. Et donc l'acte de M. Hollande représente, de ce point de vue, quelque chose, à mon avis, de significatif, dans la mesure où, ici, on a l'exemple de quelqu'un qui est capable de détachement, de laisser aller les choses et de faire place à d'autres possibilités quant à l'avenir de son pays. Ceci manque énormément à la culture politique en Afrique postcoloniale. Pas seulement d'ailleurs en Afrique postcoloniale, parce que, y compris à l'époque précoloniale, la question de la succession au pouvoir était toujours terriblement compliquée. Les sociétés politiques africaines, dans le temps long, ont toujours éprouvé d'énormes difficultés à régler au mieux les questions de transition politique, de succession au pouvoir.
C'est un mal africain, comme certains le diraient, ou c'est trop facile, justement ?
Ça n'a rien d'africain en tant que tel, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au fond, la limitation des mandats, c'est vrai, d'un point de vue purement objectif, c'est pas partout qu'elle est un pilier de l'exercice démocratique du pouvoir. Ce qui est important, c'est l'institutionnalisation d'un rapport de force équilibré entre l'État et la société. Et donc, ce qu'il nous faut obtenir, c'est un rapport de force entre la société dite civile et les pouvoirs en place. Ceci exige une énorme capacité d'organisation, ceci exige des ressources matérielles, ceci exige un renouvellement des langages culturels, une aptitude à mobiliser des réseaux de solidarité sur le plan transnational et un renouvellement profond de l'imagination politique en tant que telle. Et donc, le projet démocratique en Afrique est un projet de très long terme.
Voilà, c'était Achille Mbembe, professeur d'histoire et de philosophie, joint à Johannesburg.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma en a dirigé la mise en onde et à la console, c'était Nick Ivanov. Présentation, Chérubin Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur voaafrique.com, notre site web.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa.
Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.